J'aimerais parler ce matin sur tourner la page. Nous vivons tous des temps difficiles, des moments d'opposition, quelquefois même des échecs. Nous nous rendons compte que les erreurs que nous commettons parfois nous poursuivent parce qu'elles ont laissé comme des boulets à nos pieds qui, par les mois, les années qui passent, nous sont attachés. Et l'histoire de notre vie, on peut la comparer à un livre. Un livre sur lequel on a écrit à la main notre histoire. Et si on regarde les pages du livre, il y a beaucoup de ratures. Il y a beaucoup d'endroits où on aimerait arracher certaines pages parce qu'elles ne sont pas à la gloire de Dieu. Et pourtant, ça fait partie de notre vie. Le problème, souvent, c'est que nous restons focalisés sur les mêmes pages. Les pages du désespoir, les pages de l'échec, les pages de l'insuffisance, les pages où on a été rejeté. Et on rumine parce qu'on a eu une relation brisée, parce qu'on s'est fait du mal, mais on reste sur la même page. Et moi, ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner la page pour une nouvelle année, mais surtout tourner la page spirituellement pour partir d'un nouveau pied avec le Seigneur. Voyez, Paul a pu dire dans un de ses écrits, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Et c'est ce que nous voulons faire quand nous tournons la page, c'est oublier ce qui est en arrière et maintenant diriger notre regard vers l'avant, c'est-à-dire ouvrir une nouvelle page. Dans notre texte de 2 Timothée, chapitre 4, au verset 6, Paul écrit « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Asie, en Galatie, pardon, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Paul a eu l'occasion au cours de sa vie de tourner plusieurs fois la page. Tout d'abord, lors de sa conversion, lorsqu'il est né de nouveau, les disciples qui habitaient Jérusalem ne croyaient pas qu'il était un véritable enfant de Dieu. Et lorsqu'il est venu saluer les frères, parce que pour lui c'était des frères en Christ, il était passé du monde de la religion juive à la foi chrétienne, la foi qui sauve, et lorsqu'il est arrivé à Jérusalem pour saluer les frères et sœurs dans la foi, les frères ne voulaient pas le recevoir parce qu'ils craignaient qu'il était encore attaché au judaïsme et qu'il feignait une conversion. Ça a été difficile. Il est passé par-dessus, il a tourné la page. Un peu plus tard, il a eu un désaccord avec Barnabas, un de ses collaborateurs au sujet de Marc. C'est-à-dire que Barnabas voulait prendre Marc avec lui lors du deuxième voyage missionnaire, mais Paul ne voulait pas le prendre. Et ils se sont heurtés de telle sorte que ce désaccord a créé un dissentiment. Il y a eu comme quelque chose qui s'est passé entre ces deux hommes, comme quelque chose qui a été cassé entre eux parce que c'était une équipe missionnaire et chacun est parti de son côté. Et là encore, il a tourné la page. Je lis dans ce texte, quand il parle de Jean-Marc, et là c'est à la fin de sa vie, c'est la fin de c'est sa dernière épître, il est près de son départ, il dit, il sent sa mort approcher, son départ approcher, et il parle encore de ce Marc, et il dit au verset 11, « Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est utile dans le ministère. » Il a su tourner la page aussi de cette affaire difficile. Et je pense que la vie de Paul est ainsi faite d'avancées, de nécessité, eh bien de ne pas regarder en arrière, mais de savoir aller de l'avant et de ne pas sans arrêt ressasser les mauvaises choses, les difficultés du passé, mais regarder vers le but. Il dit ici, j'ai achevé la course. Le moment de mon départ approche au verset 6. Et on voit qu'ici, il est prêt pour partir dans la présence de Dieu. La vie chrétienne, c'est un petit peu comparable à une course, peut-être une course de marathon. Je ne sais pas si parmi vous, est-ce que certains ont eu l'occasion de faire des marathons ou alors des courses de 10 km. 10 km. Personne ? Ah voilà, je savais qu'il y en avait quand même. Mais je lève la main aussi parce que j'en ai fait deux dans ma vie. C'est pas énorme. Mais je m'en rappellerai toute ma vie. Surtout de la deuxième, parce que c'était le cross de l'équipe. Je m'étais entraîné pour faire mes 10 km, mais je m'étais entraîné sur du goudron et du plat. Et le cross de l'équipe, c'était dans la forêt, il y avait des obstacles à passer, et puis des fois ça montait. Alors moi qui m'étais entraîné sur du plat, sur du goudron, c'était facile. Mais quand je me suis retrouvé dans la réalité, avec les obstacles, alors au début c'était facile, lors du premier kilomètre, les obstacles, mais quand vous avez des trucs, ce n'était pas des petits obstacles de 10 cm ou 20 cm, c'était 50, c'était 1 mètre de haut, il fallait passer par-dessus, il fallait les enjamber, et alors au bout d'un certain nombre de kilomètres, ça devenait difficile, ça devenait lourd. Et une pensée me passait par l'esprit, c'est l'envie d'abandonner, l'envie d'arrêter. Ça nous arrive parfois dans la vie chrétienne, parce que les obstacles sont difficiles. Et on a envie d'abandonner. Et ça lui est arrivé aussi à Paul. Mes frères et sœurs, je peux le témoigner, je suis arrivé au bout de mes 10 kilomètres. J'ai mis le temps qu'il fallait, je ne suis pas arrivé le premier. Je suis arrivé plutôt dans la deuxième moitié, voire le dernier quart. Mais je suis arrivé au bout du parcours. Mais ce qui compte, c'est d'arriver au bout, frères et sœurs. Parce que sur la ligne d'arrivée, le Seigneur nous attend. Et l'important, c'est de faire partie de ceux qui iront au ciel et qui seront dans la présence de Dieu pour toujours. Alors le diable va semer des embûches sur votre route. La Bible dit que le diable a même réussi à empêcher Paul d'aller à Thessalonique. Paul dit, j'ai voulu aller vers vous, mais le diable m'en a empêché, il en a été freiné. Donc s'il l'a fait avec l'apôtre Paul, imaginez bien qu'il va le faire avec nous. Il va vouloir nous empêcher de faire certaines choses. Vous allez avoir à cœur, mais il va y avoir des obstacles qui vont surgir. C'est pourquoi il va falloir persévérer, comme nous le disons ici. Il va falloir sauter les obstacles. Il va falloir parfois confronter des situations, même être abandonné. On va le voir, il a été abandonné de certains. Il y a toutes sortes de contextes difficiles. Mais il dit, j'ai combattu le bon combat au verset 7, j'ai achevé la course. C'est ça qu'il nous faut faire, frères et sœurs, combattre le bon combat de la foi. Il y a toutes sortes de combats que nous menons qui ne sont pas de Dieu. C'est pourquoi que bien souvent nous sommes épuisés, nous sommes fatigués, nous n'en pouvons plus parce que nous combattons la chair et le sang, comme dit la parole, au lieu de combattre contre les puissances, les esprits, les dominations dans les lieux célestes, eh bien nous combattons des combats charnels. On veut absolument quelque chose, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais on va persévérer, on va s'entêter. Et nous entrons dans un combat qui est charnel, parce que nous n'obtenons pas la chose et nous commençons à combattre. Mais nous combattons contre la volonté de Dieu. C'est arrivé à des hommes de Dieu comme Jonas, par exemple, qui était pourtant dirigé pour aller dans une certaine direction, c'était Ninive, et il est allé à l'opposé. Il a commencé à combattre contre Dieu. C'était un croyant. Ce n'était pas un païen, ce n'était pas quelqu'un qui méprisait Dieu. Mais on peut être croyant et désobéir, on peut être croyant et résister à Dieu et ne pas vouloir faire sa volonté. Il ne voulait pas. Et dans son combat contre Dieu, eh bien, il s'est retrouvé à être jeté par-dessus bord du bateau et se retrouver dans la mer. Mais Dieu avait prévu ce grand poisson qu'il a avalé, qu'il a rejeté sur la rive. Mais finalement, en définitive, puisqu'il est un croyant qui aime Dieu, il est revenu sur sa décision et il a commencé à comprendre qu'il vaut mieux faire la volonté de Dieu, même si c'est difficile, parce que c'était difficile d'aller à Ninive, croyez-moi, ce n'était pas facile. C'était beaucoup de gens opposés à la parole, mais il fallait qu'il prêche la repentance, il fallait qu'il aille témoigner là-bas. C'était difficile, mais il valait mieux que ça soit difficile en faisant la volonté de Dieu, que ça soit difficile, et là, ça devenait vraiment impossible, en résistant à Dieu, et il allait mourir. S'il continuait sur cette voie-là, il allait être détruit. Alors parfois, nous portons ces choses comme des fardeaux, et on se rend compte que parfois, nous portons des fardeaux qui sont trop lourds. On porte des fardeaux pour la famille, on porte des fardeaux pour des situations impossibles à résoudre, et on se sent comme responsable de ces situations. Et quelquefois, j'ai remarqué que bien des frères et des sœurs se chargent de problèmes que Dieu nous demande de nous décharger sur lui. Pierre dit dans la parole, « Déchargez-vous sur lui, c'est-à-dire Jésus, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Est-ce que nous le faisons? Parce que Pierre ne dit pas « Continuez à vous charger ». Continuez à accumuler des soucis dans votre vie et pensez-y jour et nuit, et comme ça, vous allez voir, ça va être de pire en pire. Pierre n'est pas dans cette optique. Il sait très bien que nous en avons. Il sait très bien que la vie est difficile et que nous sommes confrontés à des tas d'obstacles, des contre-coups, des tensions, des rivalités. Eh bien, il nous dit, au contraire, tournez la page. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, ne les emmagasinez pas sur vous, ils vont vous détruire, ils vont vous rendre malheureux, ils vont vous faire du mal. Je continue avec l'apôtre Paul dans notre passage. Après avoir parlé de ses combats, il nous faut combattre le bon combat, on voit qu'il a été abandonné au verset 9. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et puis un peu plus loin, il dit, mais dans ma première défense, personne ne m'a assisté au verset 16, mais tous m'ont abandonné. Il y a là donc une accumulation d'abandon dans sa vie. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'être abandonné par quelqu'un, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être abandonné par tous vos amis? C'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Il a été abandonné par un collaborateur qui s'appelait Démas. C'est déjà difficile à supporter. Mais plus loin, il dit « Tous m'ont abandonné ». À un moment donné, c'est très lourd à porter. Parce qu'une personne qui vous abandonne, c'est difficile. Deux personnes, c'est très difficile. Mais s'il y en a 10, s'il y en a 20, si tout le monde vous abandonne, là, c'est un autre sentiment. C'est un sentiment d'injustice. C'est un sentiment d'incompréhension. Vous vous sentez trahi, moins que rien, humilié. Alors, c'est peut-être le cas quand on s'est senti trahi, par exemple, par un conjoint. Il y a des femmes qui ont tellement souffert dans leur relation avec les hommes qu'elles ne veulent plus se marier. Il y a des hommes qui ont tellement souffert dans leur relation avec les femmes qu'ils ne veulent plus de relations durables. Tout cela a été destructeur. Que faire quand on a été abandonné? Premièrement, je dirais, se rappeler que si tous nous abandonnent, au moins, Dieu ne nous abandonnera jamais. Si nous sommes fidèles, il est fidèle envers nous et nous devons continuer à lui faire confiance. Au psaume 9, verset 11, il est écrit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Ici, le psalmiste dit « Tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ceux qui sont fidèles, ceux qui aiment ta présence, ceux qui sont dans tes parvis. » Deuxième élément, ne nous habituons pas à entretenir de la rancune ou des mauvaises pensées à l'égard de ceux qui nous ont fait du mal, parce que les pensées sont à double tranchant. Les pensées peuvent nous édifier si nous les entretenons dans le bon sens. C'est pourquoi la Bible dit « Entretenez-vous de tout ce qui est bon, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, que toutes ces choses soient l'objet de vos pensées. » Mais les pensées mauvaises peuvent avoir un impact négatif, un impact destructeur sur notre vie. Et puis, dans le dernier élément, c'est qu'il nous faut aussi tourner la page, c'est-à-dire oublier ce qui est en arrière et regarder vers ce qui est en avant. Arrêtez de ruminer sur ce qui est en arrière. Arrêtez de regretter peut-être de ce qu'on vous a fait il y a 10 ans, de ce qu'on vous a fait il y a 20 ans, et ça reste au présent. Les choses anciennes sont passées. À un moment donné, la Bible nous montre qu'il faut laisser ces choses derrière. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelle. Nous avons tourné la page, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons fait une rencontre avec le Seigneur. Alors maintenant, arrêtons de revenir en arrière. Certains se rappellent du mal qu'on leur a fait, des tensions qu'ils ont eues, ils remontent dans leur passé, tout ce qu'on a pu leur faire, etc. Et cela les détruit et leur fait beaucoup de mal. Mais ça, tous les éléments qu'on a vécu, on ne peut plus les changer. Mais par contre, on peut changer d'attitude, on peut regarder droit devant et dire « Oui Seigneur, nous te faisons confiance pour cette année 2017, tu vas encore faire des belles choses. Comme nous l'avons dit, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit un jour de joie et un jour d'allégresse, un jour de bénédiction dans la présence de Dieu. » Ça, c'est notre détermination, c'est notre vision. Et je vous invite à regarder de l'avant. Devant, il y a des possibilités nouvelles. Devant, il y a des relations nouvelles qui vont s'établir. Voyez au verset 14, par exemple, Paul continue en parlant à un certain Alexandre qui était un croyant. Alexandre le forgeron, il dit « Il m'a fait beaucoup de mal ». Ça évoque la méchanceté de cet homme. Il y a parfois des hommes méchants, il y a des gens qui sont méchants. On ne peut pas changer cet état de fait, c'est une réalité. Des gens qui brisent le cœur, qui vous font pleurer, qui sont durs, qui manquent de compassion. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec des cas pareils? La Bible nous encourage à les laisser et à nous tourner d'un autre côté. Exactement comme David l'a fait avec Éliab. David a été choisi par Samuel comme le futur roi d'Israël. Il a été oint au milieu de ses frères. Éliab était donc là, c'est un frère de David. Et Éliab était un soldat dans l'armée de Saül. Et lorsque ils étaient au combat et qu'ils étaient confrontés à ce géant Goliath, alors que David arrive sur le champ de bataille pour donner de la nourriture à ses frères, il entend les vociférations de ce géant qui met le défi que quiconque le combattra, si ils arrivent à le tuer, eh bien ils domineront sur tous les Philistins. Et personne n'osait relever le défi dans l'armée d'Israël. Et lorsque David se présente et qu'il dit simplement « Mais qui est ce Philistin? Qui est cet incirconcis pour parler ainsi au peuple de Dieu ?» Vous voyez, il est remué dans son esprit de ce qu'on attaque le nom de l'Éternel et que personne ne réagisse. Et lui, il est bouillant en son esprit, il dit « C'est pas normal, il faut faire quelque chose. » Et c'est là qu'Éliab se tourne vers lui et lui dit « Mais qui es-tu toi ?» avec ton petit troupeau que tu as laissé, et il le traite d'orgueilleux, et il le méprise, et pourtant c'est son frère, et il va être méchant avec lui. Mais qu'est-ce qu'a fait David? La Bible dit qu'il l'a laissé, et il est allé voir une autre personne. Il n'a pas cherché la querelle, il n'a pas cherché à vouloir absolument avoir raison avec lui, il l'a laissé, et il est allé ailleurs. Et il est allé poursuivre son chemin, et vous connaissez la suite du récit, il a été utilisé par Dieu pour confronter Goliath. Mais à certains moments, il va falloir laisser ces choses-là, les abandonner au Seigneur, lui faire confiance en disant, bien, tu vois, cette situation, elle est injuste, il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont durs, mais je veux abandonner cette situation entre tes mains et te dire, Seigneur, toi, je veux te faire confiance, parce que toi, tu prendras la situation en main. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais notre priorité, c'est de vouloir plaire à Dieu. David ne pouvait pas plaire à Éliab. Pourquoi? Parce que David était rempli du Saint-Esprit et il était proche de Dieu, il était en communion avec Dieu. Et Éliab, qui pourtant était croyant, était charnel, rempli des pensées du monde, attaché aux choses de la terre. Il avait un jugement critique et il avait des mauvaises pensées, des mauvaises paroles. Donc il ne pouvait pas y avoir, David ne pouvait pas plaire à Éliab, ce n'était pas possible. Du fait qu'Éliab n'avait pas fait d'effort pour être en communion avec Dieu, n'avait pas cherché la présence de Dieu. Donc à un moment donné, c'est un fait, c'est une réalité, ça se produit comme ça. On ne le cherche pas, on ne le désire pas, mais c'est une réalité spirituelle. Cherchons à plaire à Dieu et à accomplir sa parole. C'est Jésus qui le dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses dont vous avez besoin vous seront données par-dessus. C'est Dieu qui le fera. On va lui faire confiance pour cette nouvelle année. Alors, qu'est-ce que dit le Seigneur dans les cas de circonstances des gens méchants? Dans Matthieu 5, 44, il dit « Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Voilà quatre défis pour l'année 2017. Aimer les ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, faire du bien à ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous maltraitent. Ce sont tous des gens qui nous veulent du mal, qui nous font du mal, mais Jésus nous donne d'avoir une autre attitude, de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de prier pour eux, de les abandonner entre les mains du Seigneur et de faire confiance à Dieu pour qu'il s'occupe de cette situation. Je pense à un autre exemple dans l'Ancien Testament qui s'appelle Moïse dans Nombre, le livre des Nombres au chapitre 12. Moïse, nous connaissons cet homme de Dieu extraordinaire qui a reçu des paroles et une formation de Dieu. La Bible dit qu'il était devenu l'homme le plus patient de la terre. Et à un moment donné, Marie, sa sœur, et Aaron, son frère, se sont laissés monter la tête à propos de Moïse parce qu'il avait épousé une femme égyptienne. Et ça, ça n'a pas passé, c'est resté en travers de la gorge. Et ils ont commencé à murmurer, à critiquer leur frère. Ils l'ont fait derrière lui, ils ont commencé à lui porter querelle. Et ils ont dit, mais n'est-ce pas aussi à travers nous que l'Éternel parle? Il n'y a pas que Moïse, nous aussi. Et ils ont commencé à se justifier, à être orgueilleux. Et ça, ça n'a pas du tout plu à Dieu. Alors, à un moment donné, Moïse est au courant de cette affaire. Il sait que Aaron, son frère, il sait que sa sœur aussi, Marie, le critique. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation? Un jour ou l'autre, si vous avez des responsabilités, il y a des gens qui vont commencer à vous critiquer. C'est pratiquement obligatoire. On le voit tout le temps. Si vous avez des responsabilités, ben, dans votre famille, il y a des gens qui vont critiquer, peut-être dans votre entourage, même dans votre église. Des fois, et pourquoi il s'est marié avec lui? Et pourquoi elle a fait comme ça? Et pourquoi il a fait comme ça? Et pourquoi il a pas fait comme ça? Etc. Et vous allez être jugé, vous allez être critiqué, c'est inévitable. Jésus, qui était parfait, qui était le meilleur exemple qui existe sur la terre, il a été critiqué, mais critiqué presque tout le temps, il était critiqué. Donc ça, on ne peut pas l'empêcher, c'est une réalité qui existe. J'ai même remarqué que certains ont la critique à la bouche, mais c'est presque un mode de vie. Ils critiquent pour critiquer. C'est devenu naturel, c'est devenu une deuxième peau. Et si on leur enlève la critique, ben, ils disent plus rien. Il n'y a plus rien à dire, parce que c'est devenu leur manière de communiquer. Et ça, c'est un réel problème. C'est un problème dont il nous faut être délivrés, débarrassés. Mais qu'est-ce que vous allez faire si on vous critique, si on dit du mal de vous? Alors on peut le regretter, on peut se plaindre. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas vengé sur Marie. Parce que la Bible dit que Marie a été atteinte de lèpre à cause de ce péché. Parce que c'est quand même un péché que de parler mal des autres. Et ça peut avoir des conséquences graves. Elle en a porté la conséquence. Elle a contracté la lèpre. La lèpre, ça voulait dire que c'est une maladie incurable qui va la conduire à la mort. Elle était donc dans une situation grave. Alors, ils ont pris conscience de leur péché à un moment donné, Aaron et Marie. Vous pouvez voir ça dans le chapitre 12 des Nombres. Ils ont demandé pardon pour leur péché. Ils se sont tournés vers Dieu et ils ont demandé pardon à Moïse pour le mal qu'ils avaient fait. Et je remarque que Moïse, plutôt que de dire à Dieu, bien, tu vois tout le mal qu'elle a dit sur moi, eh bien, merci de l'avoir puni et continue à lui faire du mal. Il n'a pas du tout prié comme ça. Je l'ai noté au verset 13, Nombres chapitre 12, verset 13. Moïse cria à l'Éternel, c'est-à-dire il a prié de toutes ses forces en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la, guéris ma sœur. » C'était la même qu'il avait critiquée juste avant, mais il a su tourner la page. Et maintenant, on va ensemble dans la bonne direction. Moïse a décidé de tourner la page de nombreuses reprises. Je pense à un homme dont je vous ai déjà raconté cette anecdote. C'est un homme qui a su tourner la page de nombreuses fois dans sa vie. Il a fait faillite à l'âge de 31 ans. Il a été battu aux premières élections auxquelles il s'est présenté à 32 ans. Il a fait de nouveau faillite à 34 ans. Il a vu mourir sa petite amie à 35 ans. Il a survécu à une dépression nerveuse à 36 ans. Il a été battu aux élections locales à 38 ans. Battu aux élections du Congrès américain à 43 ans, battu aux élections encore du Congrès à 46 ans, encore battu à 48 ans, battu encore aux élections du Sénat à 55 ans, il a manqué la vice-présidence à 56 ans, Il a été encore battu aux élections du Sénat à 58 ans et il a été élu président des États-Unis à l'âge de 60 ans. Mais combien de pages il a dû tourner dans sa vie. Et cet homme, c'est Abraham Lincoln, qui est resté célèbre dans l'histoire pour l'abolition de l'esclavage. Tourner la page, nous aurons à le faire plus d'une fois dans notre existence. Comme dit Paul, oublier ce qui est en arrière et me porter vers ce qui est en avant. Si nous restons sur chacun de nos échecs, on n'a pas réussi, on n'a pas été apprécié, ça n'a pas fonctionné, eh bien c'est facile de tout arrêter. Mais qui va être de ceux qui persévèrent et qui font confiance à Dieu? Je vous laisse encore un verset dans Actes 5, 41. Alors que les apôtres avaient été battus, on leur avait interdit d'annoncer le nom de Jésus, le Sanhédrin était formel, ils n'avaient plus le droit de parler de Jésus. Verset 41, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Pourtant, c'était des serviteurs de Dieu, ils avaient été injustement maltraités, frappés, humiliés. Est-ce que si on est frappé, est-ce que si on est mis en prison, est-ce que ça veut dire que Dieu nous a abandonnés, frères et sœurs? Ce n'était pas le cas des apôtres. Dieu était toujours avec eux. Dieu était avec eux quand ils étaient frappés. Dieu était avec eux même s'ils vont en prison. Dieu est avec nous parce que Dieu, il est dans notre cœur et il ne nous abandonne pas. Il nous accompagne dans les détresses. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et qu'est-ce que nous allons faire quand les épreuves vont survenir, qu'on va être maltraité, qu'on va être bousculé, qu'on va être ballotté? Eh bien, cette épreuve, je remarque chez eux, elle n'a pas entamé leur joie, mais ils ont conservé la joie du Saint-Esprit que Dieu a mis dans leur cœur, parce qu'ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages au nom du Seigneur. Conserver la joie dans l'épreuve. C'est aussi un défi pour nous, mais je crois que ça, c'est surnaturel. C'est le Saint-Esprit qui l'a mis dans leur cœur et qui leur a permis d'expérimenter cela. Face à la méchanceté, ils n'ont pas été amers. Ils n'ont pas organisé un comité pour dire comment on pourrait se venger, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leur rendre la monnaie de notre pièce et afin qu'ils comprennent que ce n'est pas bien ce qu'ils font. Non, ils ont abandonné cette situation aux mains du Seigneur et eux, ils ont gardé la joie du Seigneur. Ils n'ont pas entretenu l'amertume, ils n'ont pas entretenu de mauvaises pensées à l'égard du Sanhédrin. Et je crois que ça plaît à Dieu. Quand on arrive à louer et glorifier le Seigneur, alors que la situation est défavorable. Eh bien, ça plaît au Seigneur. Quand on arrive à chanter les louanges de Dieu, alors que tout s'oppose, tous les obstacles se dressent devant nous, eh bien, ça plaît au Seigneur. Et moi, je vous encourage, durant cette année 2017, à glorifier le Seigneur et à le bénir pour toutes choses, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon. Alors, en cette nouvelle année, pourquoi ne pas tourner la page? Je reviens à ce verset. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est une nouvelle journée, c'est un nouveau départ. On n'est pas obligé de rester en 2016. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de rester sur nos échecs ou nos difficultés passées. On n'est pas obligé de ruminer sur tout le mal qu'on nous a fait. Et peut-être que quand on était enfant, il y a un autre enfant qui nous a volé notre doudou et puis on s'en rappelle encore aujourd'hui. Et si on le trouve, on voudrait bien le... Et on rumine ces choses-là. Et on est malheureux à cause de tout le passé qu'on a sur notre dos. Alors, il y a une solution, c'est reformater le disque dur. Ça vous est déjà arrivé en informatique, votre ordinateur, il a attrapé des virus, il fonctionne au ralenti. Il y a une solution radicale. Il faut reformater le disque dur. On efface tout et on réinstalle tout. Et puis alors, il est après comme neuf. Il remarche impeccable. C'est ça aussi, tourner la page. C'est reformater le disque dur et repartir pour une année pleine d'espérance, pleine de foi, pleine de confiance dans le nom de Jésus. Merci encore pour ta parole. Nous savons qu'elle est pleine de bons conseils et que tu as encore des plans merveilleux pour chacun de tes enfants. Te bénissons pour ce jour que tu nous accordes de vivre et je souhaite qu'il soit pour chacun de nous un sujet de joie et un sujet de bénédiction, un sujet de louange et un sujet de victoire. Seigneur, nous voulons qu'au cours de cette année, ça soit encore une année de grâce, une année de bénédiction, une année pour le salut des âmes, une année où nous allons voir des personnes passer de la mort à la vie, des conversions, des repentances, des nouvelles naissances, des baptêmes du Saint-Esprit. Nous prions pour une année fructueuse, pour une année de bénédiction Et je, Seigneur, en ton nom, je bénis cette Église et je déclare qu'elle est sainte, qu'elle est pure. C'est ton Église, c'est ton épouse, Seigneur, et nous voulons la voir comme tu la vois. C'est l'Église de Christ et nous voulons l'aimer, nous voulons servir dans ton Église. Nous voulons travailler de mieux en mieux, servir davantage, être davantage engagés dans tes voies. Dans le nom de Jésus, bénis chacun ce matin, renouvelle les forces de ton peuple, accorde, Seigneur, ta pensée pour cette nouvelle année, mets dans le cœur les projets, Seigneur, mets dans le cœur les pensées qu'il faut pour cette nouvelle année, mets dans le cœur le désir, le zèle du service, mets dans le cœur la volonté de s'engager pour toi, de faire un pas avec toi, de changer d'existence. Merci Jésus, nous te rendons toute la gloire, dans le saint nom de Jésus, Amen.